Le journal Frédéric Barrère, bonjour Frédéric.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. 1 milliard d'euros pour les agriculteurs sous le choc après le gel intense de ces derniers jours. Un fonds de solidarité exceptionnel annoncé ce matin par le chef du gouvernement. 3 millions de morts du coronavirus dans le monde. Ce sombre cap a été franchi ce matin. En France, des créneaux dédiés à la vaccination ouvrent aujourd'hui, notamment pour les enseignants de plus de 55 ans et les professions à risque. Grand rassemblement à gauche pour la présidentielle 2022. Tous les partis ont répondu à l'invitation de Yannick Jadot. Une réunion positive avec des divisions. Simon Le Baron dans un instant. Les funérailles du prince Philippe, une cérémonie en petit comité retransmise dans le monde entier. Nous irons à Londres rejoindre notre correspondant Richard Place, invité de ce journal Jérôme Caron, grand reporter à l'hebdomadaire Point de Vue. Dans ce journal également, du tennis avec les demi-finales du tournoi de Monte Carlo et la prescription culture avec le quatrième roman de la Canadienne Kim Thuy. La météo ensoleillée et sec sauf dans le sud-est. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 13h20, Secret d'info, au programme aujourd'hui Jacques Monin.
Eh bien, une enquête sur un phénomène qui s'est amplifié pendant les confinements. Vous êtes jeune, on vous fait miroiter de gros gains en faisant du trading en ligne et vous vous retrouvez endetté et coupé de vos proches.
Jacques Monin, Secret d'info, à 13h20.
France Inter.
Une réunion annoncée utile. Une réunion pour jeter les bases d'un grand rassemblement de la gauche pour la présidentielle de l'année prochaine a donc eu lieu ce matin. Tous les partis ont répondu à l'invitation de Yannick Jadot, député européen, Europe Écologie Les Verts, Anne Hidalgo, Olivier Faure, Julien Bayou, Benoît Hamon, mais aussi la France Insoumise et le Parti Communiste. On retrouve en direct Simon Le Baron devant le lieu de rendez-vous dans le 19e arrondissement de Paris. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors, pas de fumée blanche, des divisions encore profondes, mais les participants veulent retenir le positif.
Oui, Frédéric, la réunion est d'ailleurs en train de se terminer. Pour l'instant, seul le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, est sorti un petit peu en avance pour ne pas rater son train. Éric Piolle, candidat potentiel pour 2022 et qui retient en effet un premier pas inédit.
On sent qu'on n'a jamais été aussi proche sur le fond. L'impératif de justice sociale, l'impératif de changement sur l'environnement, les gens ont capté ça, ont capté aussi le lien entre cette dimension sociale et cette dimension environnementale. Il y a de l'envie, donc on est plutôt confiant quand même.
Et comme lui, tous les participants insistent ce matin sur les points de convergence, mais il y a aussi évidemment les désaccords. Tout le monde autour de la table les a en tête. Il faut qu'on arrête de s'engueuler sur la laïcité, a notamment imploré la maire de Paris, Anne Hidalgo. Mais pas besoin d'être d'accord sur tout pour former une coalition. Ça, c'est ce que dit le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, convaincu qu'il est contre-productif de faire semblant d'être parfaitement aligné pour construire un programme commun de gouvernement. Première réunion très positive, donc, selon les participants, et qui en appellera d'autres. Même si le rassemblement reste une perspective encore très lointaine, les divergences ont été assumées, répétées ce matin, entre ceux qui veulent arriver à une candidature unique et ceux, comme les insoumis en position de force, qui n'ont pas l'intention de se ranger derrière les autres.
Simon Le Baron, merci, avec Sandrine Malon. L'actualité à l'étranger, c'est avant tout aujourd'hui les funérailles du prince Philippe. Des funérailles en petit comité et en mondiovision. La reine Elisabeth II et tout le royaume font leurs adieux au prince Philippe, décédé à l'âge de 99 ans. Une cérémonie dans le domaine du château de Windsor, un moment d'histoire important pour les Britanniques. En direct de Londres, on retrouve notre correspondant Richard Place. Bonjour Richard.
Bonjour.
Il y aura peu de monde aux funérailles du prince Philippe cet après-midi, la famille uniquement.
Oui, 30 personnes et c'est tout, uniquement des membres de la famille, pas de chef d'État ou de représentants de nations étrangères. C'est la règle pour tous les enterrements et la reine n'a pas voulu bénéficier d'un traitement de faveur ici au Royaume-Uni, 30 personnes maximum à chaque obsèque. Buckingham s'empresse de préciser que cela correspond de toute façon au souhait du prince Philippe. Il voulait quelque chose de simple, pas grandiloquent. Il a d'ailleurs préféré une cérémonie militaire plutôt que des funérailles d'État à Windsor. Pour les mariages et les enterrements, il y a normalement la foule à chaque fois, des milliers de personnes. Eh bien, pas cette fois. Aucune barrière n'a été posée pour contenir les badauds en raison des restrictions sanitaires. Toujours, il a été demandé au sujet de Sa Majesté de ne pas se rassembler, de regarder cette cérémonie à la télévision ou de l'écouter à la radio.
Et puis Richard, la reine a prévu un temps pendant lequel elle sera seule une dernière fois avec celui qui a partagé sa vie pendant 74 ans.
Oui, avant la cérémonie, elle va se retrouver seule avec ce cercueil parce que c'était son rock, son principal conseiller. Elle sait bien les sacrifices qu'il a consentis pour l'accompagner, renonçant à sa nationalité, sa religion, son nom de famille, sa carrière militaire, pourtant prometteuse. Et il y aura une image forte pendant la cérémonie, c'est Elisabeth qui sera seule face au cercueil dans la chapelle Saint-Georges où sera célébrée la messe. La reine, avec un masque sur le visage, seule face à son défunt mari, celui qui l'a accompagnée pendant plus de 80 ans, qui a été son époux pendant 74 ans, tous les autres membres de la famille seront assis derrière elle.
Alors vous l'avez dit Richard, des funérailles retransmises à la télévision dans le monde entier et bien sûr à la BBC. Et pour la première fois, la BBC a reçu un nombre record de plaintes pour lui reprocher d'en avoir trop fait depuis la mort du prince Philippe.
Oui, la chaîne publique en a évidemment fait beaucoup, énormément. À l'annonce de la mort du prince Philippe, tous les présentateurs de BBC News, par exemple, étaient vêtus de noir et ils n'ont traité aucun autre sujet jusqu'au lendemain. L'agacement de certains téléspectateurs est sans doute lié aussi à la pandémie qui, je vous le rappelle, a fait plus de 127 000 morts ici. Alors tout ce bruit pour le décès d'un prince de bientôt 100 ans a pu choquer. D'ailleurs, aujourd'hui, certains journaux comme le Mirror ou le très républicain Guardian ne font pas leur une sur ces funérailles. Il n'empêche que cette nouvelle a secoué tout le pays. Fervent royaliste ou pas, les Britanniques ont été accompagnés toute leur vie par le prince Philippe. Sa mort et donc ses obsèques, c'est un événement majeur ici.
Richard Place, merci, en direct de Londres. Invité de ce journal, Jérôme Caron, grand reporter à Point de Vue, spécialiste de la royauté. Bonjour Jérôme Caron.
Bonjour.
Des funérailles, Richard Place nous le disait, avec uniquement la famille, 30 personnes. Le prince Philippe avait préparé ses obsèques depuis des années et la reine a organisé elle-même les funérailles et le nombre d'invités, y compris les tenues vestimentaires, Jérôme Caron.
Tout à fait, il y a eu une polémique au cours de cette semaine en ce qui concernait les tenues vestimentaires. Le prince Philippe, comme votre correspondant l'a dit, souhaitait une cérémonie militaire et on aurait attendu que ses fils, notamment le prince Charles et le prince William, portent des tenues militaires. Mais hélas, le prince Andrew a été écarté de la famille royale en 2019 suite à sa catastrophique interview pour la BBC dans laquelle il n'a pas montré une empathie suffisamment forte avec les victimes de Jeffrey Epstein avec lequel il était lié. Et d'autre part, le prince Harry, la reine a supprimé tous ses titres honorifiques militaires. Donc ces deux personnes, ces deux membres de la famille royale ne pouvaient pas ou difficilement porter tenue militaire sans créer une polémique. Donc afin de régler définitivement le problème, la reine Elisabeth a repris la main et a décidé que tout le monde serait en costume noir.
Alors c'est à noter, Jérôme Caron, aussi que cette cérémonie avec 30 membres de la famille se fera avec port du masque obligatoire et 6 pieds de distance entre les personnes. C'est une image assez singulière pour un moment historique et fort pour les Britanniques.
C'est un dernier au revoir qui n'est pas celui qu'on attendait. La nation voulait s'unir, ou tout au moins le prince Philippe jouissait quand même d'une très grande popularité, comme soutien de la reine, le rock, comme on l'a beaucoup dit. Et donc je pense que les Britanniques souhaitaient vraiment participer d'une manière ou d'une autre à cette cérémonie, tout au moins en regardant passer le convoi funéraire dans le Long Walk, qui est la grande avenue qui part vers le château de Windsor. Et la pandémie oblige en effet à tout le monde de rester masqué. Donc il semblerait que lors de la procession qui amènera la famille royale et le cercueil jusqu'à la chapelle Saint-Georges, les gens soient démasqués, entre guillemets, et puis qu'à l'arrivée, une fois dans l'intérieur de l'édifice, ils seraient masqués. On va perdre en émotion, même si on va guetter les regards, on va guetter des attitudes, le langage du corps, mais on va quand même perdre beaucoup de choses.
Et puis on va guetter Jérôme Caron, on va guetter William et Harry qui ne seront pas à côté. Ils seront séparés par un cousin. Est-ce que la couronne a donné une explication? La presse anglaise parle de bizarrerie.
En effet, c'est une manière de ne pas ne pas laisser toute interprétation possible. À partir du moment où ils ne sont pas l'un à côté de l'autre, il sera difficile d'imaginer ou de voir ce qu'ils pourraient éventuellement se dire ou ressentir. Et donc c'est une manière de séparer le problème, d'éviter qu'il y ait des explications compliquées ou fausses par ailleurs à la suite de la cérémonie. Le cousin en question est Peter Phillips, le fils de la princesse Anne. C'est l'aîné des petits-enfants de la reine Elisabeth II et il a été extrêmement proche de William et Harry après le décès de leur mère Diana. C'est un garçon dynamique, sportif, sur lequel William et Harry se sont beaucoup reposés et qui a permis de les aérer un petit peu mentalement après le drame qu'ils ont vécu.
Alors Jérôme Caron, la reine Elisabeth II, elle expliquait que la mort de son mari laissait un énorme vide dans sa vie, il était sa force et son soutien. Est-ce qu'on sait comment la reine surmonte ce deuil, cette épreuve? C'est la première fois qu'on la verra en public aujourd'hui depuis la mort du prince Philippe.
En effet, elle semble-t-il, la reine est une personne de devoir et d'abnégation. Elle est là pour porter la couronne jusqu'à son dernier souffle, comme elle l'a dit lors d'un discours resté célèbre le 21 avril 1947, lorsqu'elle avait 21 ans. Elle porterait la couronne jusqu'à son dernier souffle. Elle a eu une activité officielle au courant de la semaine. Elle a participé à une cérémonie de départ du Lord Chamberlain. Donc, elle reste sur le pont, elle reste active. On peut supposer que tant que l'organisation de la cérémonie des funérailles la tient, lui oblige à prendre des décisions, comme on a vu avec les uniformes d'organisation, de placement, ce genre de choses, elle est encore complètement dans la machine, en fait. En revanche, on peut imaginer que le lendemain, demain matin, ou dans les jours suivants, il y ait un petit coup de fatigue, un petit coup au cœur, une petite blessure à l'âme, qui perdurera. En revanche, elle restera active. Buckingham Palace a communiqué sur le fait que les membres de la famille royale allaient essayer d'honorer le plus possible d'obligations, ou tout au moins d'activités officielles qui étaient prévues, en fonction de la pandémie, en fonction des désirs et des possibilités sanitaires, mais ils restent sur le pont. Je crois que la reine Elisabeth tient par-dessus tout à ce que la machine continue à tourner, en fait, que la maison Windsor continue à faire ce pourquoi elle est là. Et donc, on peut supposer qu'elle va rester assez longtemps sur le devant de la scène, même si, depuis quelques années, déjà, elle était un petit peu en retrait et qu'elle avait délégué à ses enfants un certain nombre d'obligations.
Bon, elle règnera, vous nous dites, jusqu'à la fin, comme elle l'avait déclaré elle-même. Et la reine Elisabeth II aura 95 ans jeudi prochain. Même si vous avez à moitié répondu à la question, il n'empêche, les spéculations sur une possible abdication refont surface.
Bien évidemment, c'est un serpent de mer, les abdications, surtout quand les gens prennent de l'âge, comme c'est le cas de la reine Elisabeth II. De son parcours, de ce qu'elle a dit, du peu d'interviews ou de peu de discours qu'elle a donné sur sa fonction et sur les raisons pour lesquelles, la manière dont elle la vivait, on peut vraiment supposer qu'elle ira jusqu'au bout de son règne absolu. Elle a dépassé en longueur le règne de la reine Victoria, qui est son modèle. Mais donc, on peut, en revanche, ce qu'il peut se passer, c'est qu'un souci de santé, ou tout au moins un affaiblissement, on pourrait imaginer une forme de régence dans laquelle le prince Charles, qui est l'héritier du trône, le prince de Galles, prendrait plus d'importance, plus de surface, même s'il en prend de plus en plus au fil des années depuis un certain temps. Mais de là à imaginer une abdication, ça reste assez impossible. La reine d'Angleterre est sacrée par Dieu. C'est un contrat avec le divin, et on ne rompt pas les contrats avec le divin comme on rompt les contrats dans une grande entreprise. Donc même si beaucoup de gens, la majeure partie des Anglais préféreraient, tout au moins imaginerait que William serait un roi plus moderne et plus jeune, on peut être sûr que Charles régnera. Il régnera 10 minutes ou 10 ans, mais il régnera.
Merci Jérôme Caron, grand reporter à Point de Vue, spécialiste de la royauté. Et les obsèques démarreront à 16h heure de Paris par une minute de silence. La logique du quoi qu'il en coûte concernera également les agriculteurs sonnés par la double vague de froid et de gel de ces derniers jours. Jean Castex, le Premier ministre aujourd'hui en Occitanie auprès des exploitants, annonce un fonds de solidarité exceptionnel pour faire face à une situation exceptionnelle. Jean Castex.
Tout ce qui est les cotisations, les charges sociales, on va faire une année blanche. Toujours à titre d'urgence, je souhaite que sous 10-15 jours, les préfets puisse disposer d'une enveloppe d'urgence à leur main pour faire du cas par cas. La situation dramatique de très court terme. Hein, là, c'est même plus une question de revenus, là, c'est une question de survie. Donc, c'est pas général. On se met bien d'accord avec vous. Il faudra d'ailleurs trouver des dispositifs. Mais je fais toute confiance au préfet de la République pour que ce soit transparent. C'est pas non plus la tête du client. On est quand même, sachez-le, de l'ordre du milliard d'euros, hein. Les annonces que je vous fais ce matin, hein. C'est à la mesure de l'ampleur de la catastrophe que vous subissez.
1 milliard d'euros pour les agriculteurs, annonce de Jean Castex. Et puis sur le front de l'épidémie de coronavirus et pour gagner du terrain sur la maladie, des créneaux dédiés seront ouverts dès ce week-end, notamment aux enseignants, policiers et gendarmes de plus de 55 ans, ainsi qu'aux professions particulièrement exposées au coronavirus et qui souhaitent se faire vacciner, une mesure qui concerne 400 000 personnes. Et donc, il sera possible de recevoir une dose de vaccin à Lyon, par exemple, 2 semaines après le week-end de Pâques, au cours duquel 10 000 doses ont été administrées. Le Groupama Stadium, le stade de l'Olympique Lyonnais, rouvre ses portes à une vaccination massive aujourd'hui et lundi, et les places ont été prises d'assaut. Christophe Vincent. À Pâques, 10 000 personnes de plus de 70 ans avaient reçu une première dose de Moderna. Ce week-end, 5 000 doses de Pfizer seront injectées à des plus de 60 ans. Sauf demain, l'OL féminin accueille le PSG. Philippe Guetta, directeur pour le Rhône de l'Agence régionale de santé.
Ça donne des créneaux supplémentaires à des personnes qui se font convoyer, à part de la famille ou des gens qui, en semaine, sont peut-être moins disponibles. On bénéficie, il faut le dire aussi, de l'image du stade, avec une organisation qui est encore plus huilée que lors du premier week-end, parce qu'on l'a rodée. Cette opération-là complète ce qui se fait déjà dans le département. Les deux formules permettent d'accélérer la campagne de vaccination.
Sur ces vaccinodromes, les Lyonnais sont partagés.
C'est très bien. C'est mieux que d'être contaminé, quand même.
Pourquoi pas, si on peut vacciner un maximum.
Je suis tout à fait au courant, mais je préfère la proximité. Je ne voulais pas aller à Gerland. Pourquoi aller si loin ?
Je pense qu'il faut que les gens se bougent et acceptent de se faire vacciner, arrêtent de faire les idiots en disant « c'est pas moi, c'est pas moi ».
Même dans un grand stade ?
Pourquoi pas, on s'en fout.
Les 5000 créneaux ont été réservés en 2 heures. 300 000 Rodaniens sont déjà vaccinés sur 1,9 million. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Et puis concernant le vaccin AstraZeneca et son image déjà très écornée, autre mauvaise nouvelle, l'Agence de sécurité du médicament a recensé en France 9 nouveaux cas de thrombose atypique et 2 cas de coagulation. Et ce qui inquiète l'Agence du médicament, c'est le profil des nouveaux patients, aussi bien des hommes que des femmes, et âgés de 54 à 74 ans. Malgré cela, les médecins le répètent, le rapport bénéfice-risque et à l'avantage du vaccin AstraZeneca. Renaud Piaroux, épidémiologiste et chef de service parasitologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Plutôt que de ne pas être vacciné, si on réfléchit au rapport entre le risque, une thrombose sur 100 000 vaccinations à peu près, et le bénéfice, surtout pour les plus de 55 ans, avec quand même la gravité potentielle de la Covid et la fréquence de cette maladie actuellement, le rapport bénéfice-risque est à l'avantage du vaccin. Je dis que s'il y avait le choix entre les vaccins, c'est pas forcément celui que je choisirais. Mais dans la mesure où tout le monde n'a pas accès actuellement aux vaccins ARN parce qu'il n'y en a pas assez, il vaut mieux se vacciner avec l'AstraZeneca que ne pas se vacciner.
L'épidémiologiste Renaud Piaroux avec Ersin Lebovic. Du tennis avec les demi-finales aujourd'hui du tournoi de Monte Carlo et la terre battue qui ne réussit pas à tous les grands favoris qui ont été éliminés. Après Novak Djokovic, Rafael Nadal a été battu hier en quart. En direct de Monte Carlo, on retrouve Fabrice Abgal. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Il y a donc 2 demi-finales inattendues, Fabrice, entre Rublev et Ruud, et Tsitsipas face à Daniel Evans que personne n'attendait à ce niveau de la compétition.
C'est vrai, c'est la première fois que cet Anglais de 30 ans se hisse en demi-finale d'un tournoi Masters 1000, catégorie de tournoi où jusqu'à présent Daniel Evans n'avait gagné que 4 matchs. Alors c'est vrai, personne ne l'attendait à ce niveau, et encore moins sur terre battue, surface qu'il a longtemps détestée et sur laquelle, avant d'arriver sur le rocher, il n'avait gagné que 2 matchs. Là, il en a gagné le double, dont un jeudi en 8e de finale contre le numéro 1, Novak Djokovic. Daniel Evans est un petit gabarit, 1m75 pour 75 kilos. Il développe un tennis propre et élégant, un tennis à l'ancienne avec un revers à une main, et le plus souvent slicé, le plus souvent coupé, un tennis d'un autre temps mais terriblement efficace sur la terre battue monégasque. Daniel Evans se révèle tardivement, il faut dire que le tennis n'a jamais été sa priorité, il a longtemps préféré les sorties nocturnes plus ou moins agitées et plus ou moins alcoolisées. Daniel Evans a même été considéré à ses débuts comme le plus grand gâchis du tennis britannique. Le natif de Birmingham a même touché le fond quand il a été suspendu 1 an en 2017 pour un contrôle positif à la cocaïne. À son retour en avril 2018, il n'a plus de classement. Evans a alors 28 ans et il décide de rattraper le temps perdu. Il s'achète une conduite et reprend le fil de sa carrière. Et aujourd'hui, Daniel Evans peut devenir le premier Britannique à se hisser en finale à Monte Carlo.
Fabrice Abgral en direct de Monte Carlo, merci. La prescription culture pour ce week-end avec le 4e roman de la Canadienne francophone d'origine vietnamienne Kim Thuy au Canada. Kim Thuy est une star et avec M, qui s'écrit E-M, Kim Thuy aborde pour la première fois le sujet de la guerre du Vietnam que les Vietnamiens appellent la guerre américaine. Grande économie de moyens, écriture très concentrée. Elle va directement au cœur des situations, Ilana Mariusef.
Il ne faut pas croire Kim Thuy quand elle dit que si ses livres sont courts, c'est parce qu'elle ne connaît pas assez de mots en français. Sa brièveté est plutôt la marque d'une grande maîtrise. Elle est capable, en une page et demie, de dessiner la trajectoire d'une vie. Et qu'elle parle d'un soldat américain, d'un colon français, d'une paysanne vietnamienne ou d'un enfant des rues, à ses yeux, aucune existence n'a moins de prix qu'une autre.
J'ai vécu les 10 premières années de vie au Vietnam, au milieu de cette guerre,
Je ne voulais pas écrire ce livre à partir de la colère ou de la tristesse ou de la nostalgie. Ma seule mission dans la vie quand j'écris, c'est de partager la beauté. Et je veux nous rappeler que oui, on est à la fois cruel et grandiose en même temps, dans la même personne, presque dans le même geste. Mais je choisis vraiment de parler de la beauté.
La beauté, Kim Thuy la saisit partout, jusque dans cette façon incroyable qu'elle a de faire danser ensemble dans la même phrase des mots français et des mots vietnamiens.
La langue française est devenue ma deuxième langue maternelle, hein, parce que c'est possible d'avoir deux langues maternelles. J'ai l'impression que c'est d'avoir une mère biologique et une mère adoptive et que les deux m'aiment également et que moi, je les aime inconditionnellement. Et donc, j'ai décidé que les deux m'appartiennent.
Et deux langues maternelles ne sont pas de trop pour affronter la mémoire de cette guerre dite d'Indochine, puis du Vietnam, que Kim Thuy a connue enfant.
M de Kim Thuy, publié aux éditions Liana Lévy.